Bonjour à tous. Quelle joie de nous retrouver pour louer et glorifier Dieu ensemble. Amen. Quelle joie aussi de nous mettre à l'écoute de sa parole ce matin. Dans la Bible, on peut lire des passages qui sont parfois très surprenants, n'est-ce pas? Et ce que je vous propose, c'est d'aborder l'un de ces passages surprenants. Alors, quel est le contexte? Jésus et les apôtres sont à Jérusalem, dans la chambre haute d'une maison, et ils viennent de prendre le repas de la Pâque. Dehors, il fait déjà nuit, et juste avant de sortir pour aller au jardin de Gethsémané, qui est le lieu où Jésus va être arrêté la nuit même, Jésus s'adresse encore à ses disciples. Et il va prononcer plusieurs paroles, et parmi ces paroles, il y en a une bien particulière que l'on peut trouver dans l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 22, verset 36. Voici ce que dit Jésus. Que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Surprenant. Cette déclaration de Jésus, c'est vrai qu'elle fait débat chez les commentateurs. Et au cœur de ces débats, il y a une question qui revient. Mais de quelle épée parle Jésus? Et c'est aussi la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Quelle épée avons-nous? Quelle épée voulons-nous avoir? Alors je vous rassure, je ne vous demande pas de répondre tout de suite. On va d'abord regarder plus en détail de quoi il s'agit. Examinons d'abord la manière dont les disciples, eux, ont interprété cette parole de Jésus. Quand Jésus demande à ses disciples de vendre leurs vêtements et d'acheter une épée, que répondent les disciples? On peut le lire dans Luc 22, verset 38. Ils dirent « Seigneur, voici deux épées ». Pour eux, c'est clair, il n'y a pas de débat. Jésus leur parle d'une arme physique, une arme qui peut servir aussi bien à se défendre, mais aussi à attaquer. D'ailleurs, quelques heures plus tard, au moment de l'arrestation de Jésus, il y a un des disciples qui va passer à l'action. On est au verset 49. « Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. » Il est vraiment passé à l'action. Faire le choix d'une épée physique, une arme capable de produire la mort, c'est mettre en avant le droit de se défendre, le droit de résister à l'hostilité, avec des moyens physiques à notre disposition. À travers l'histoire, on voit à de nombreuses reprises que des personnes ont utilisé ce droit-là. Mais l'histoire nous montre aussi que ça a fait beaucoup de dégâts quand même. Et les médias, même encore aujourd'hui, nous parlent sans cesse d'escalade de la violence. Tellement qu'à la fin, on ne sait plus vraiment qui attaque et qui défend. Malgré cela, la plupart des gens sont d'avis que c'est un droit naturel. C'est un droit qui nous semble normal. Si quelqu'un me veut du mal, je dois être en mesure de me défendre. Même si en faisant ça, je peux à mon tour faire du mal à mon agresseur. En droit français, on appelle ça la légitime défense. Donc c'est vraiment une valeur de notre société. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, on ne se sert plus vraiment d'épée. On utilise plutôt des armes à feu. Et quand on regarde les statistiques, pour notre pays, je ne parle pas des États-Unis ou des pays où on sait que les armes à feu sont courantes, mais en France même, quand on regarde les personnes qui meurent suite à l'utilisation d'une arme à feu, ce que l'on constate, c'est que 7 personnes sur 10, même davantage, le sont dans le cadre d'un suicide. C'est-à-dire que cette arme, qui devait être un outil de défense au départ, devient un outil de mort pour la personne même qui s'était confiée en elle. Ce qui semblait être une bonne idée au départ, en fin de compte, nous dévie du but final. Mais Jésus dans tout ça, Que dit Jésus à ce sujet ? Jésus va dire trois choses. Et il va faire une chose après avoir parlé. Alors, que dit-il ? On est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 et verset 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Autrement dit, si nous choisissons de nous confier dans une arme physique qui répand la mort, à un moment donné, nous trouverons nous-mêmes la mort. C'est l'affirmation claire que ce que les disciples ont compris, ce n'était pas ce qu'il fallait comprendre. Il ne fallait pas comprendre que c'était une arme physique dont Jésus parlait. Jésus parlait d'une autre épée. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il continue. Au verset 53, il s'adresse toujours à ce disciple qui a frappé de son épée le serviteur du souverain sacrificateur. Il lui dit, « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Jésus était parfaitement informé de la suite des événements. Et il a à sa disposition une puissance qui dépasse de très loin la puissance d'une épée. Pourtant, il a refusé d'utiliser cette puissance. Et au contraire, il a passé du temps dans la prière avec Dieu. Il a choisi de rester soumis à tout ce qui allait se passer, à tout le plan que Dieu avait prévu. Et dans sa prière, il va dire notamment une phrase tellement bouleversante, on peut la retrouver dans Marc chapitre 14, verset 36. « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. » Alors, quand il parle de cette coupe, c'est une image. Il parle de la mission qu'il doit accomplir, des souffrances qu'il va endurer. Mais il dit ensuite, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus ne parle pas de légitime défense. Il ne parle même pas de défense tout court. Pourtant, ce sont des hommes en armes qui sont hostiles, qui viennent l'arrêter. Et Jésus dit une troisième chose. C'est le verset qui suit, Matthieu chapitre 26, verset 54. « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ?» Autrement dit, si je me défends, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut utiliser une épée pour répandre le sang et la mort, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Jésus accomplit notamment cette parole du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à une boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » Jésus ne s'est pas défendu. Ni devant le Sanhédrin, ni devant Pilate, ni devant Hérode, il a accepté de mourir. Parce que c'était la volonté de Dieu. Pour que par son sacrifice, nous puissions être sauvés. Et au-delà des paroles, comme Jésus le fait souvent, il vient associer sa parole à des actions, à des prodiges. Et il va le faire, encore une fois. On est dans Luc, chapitre 22, verset 51. « Mais Jésus, ayant touché l'oreille de cet homme, celui qui avait été blessé, il le guérit. » Jésus a guéri l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Autrement dit, il a fait du bien à celui qui lui voulait du mal. Il a béni celui qui le maudissait. Il a manifesté de l'amour envers celui qui venait en ennemi. Jésus met en pratique de façon très concrète ce qu'il a enseigné à ses disciples. Dans Luc chapitre 6, verset 27, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Ah, ce n'est pas un enseignement facile. Ça va même à l'opposé de ce qui nous semble naturel, à l'opposé de ce que notre société nous donne comme modèle. Pourtant, c'est ce que Jésus nous demande. Là où il y a une réaction naturelle, faisons plutôt le choix du surnaturel. Là où notre société nous donne un modèle, choisissons plutôt de partager le modèle de Christ. Quelqu'un pourrait se dire ce matin, mais moi je n'ai pas d'épée. Et puis je n'ai pas d'arme à feu non plus. Je n'ai versé le sang de personne. Je n'ai tué personne. Mon frère, ma sœur, ça me rassure un peu. Et je pense que presque tout le monde ici est dans le même cas. Mais est-ce que vous savez que nous avons un autre genre d'épée à notre disposition et qui sème la mort aussi? Jacques chapitre 3, verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue peut être une épée qui blesse, qui répand le sang et même qui tue. Oui, j'ai cherché plein d'images de langue, mais j'ai pas trouvé quelque chose de vraiment joli. Mais celle-ci était suffisamment longue et pouvait avoir l'aspect d'une épée. Jésus lui-même a dit une chose qui était révolutionnaire. Dans Matthieu chapitre 5, verset 21, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. » Ça nous semble logique et normal. Mais Jésus ajoute, « Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Notre langue peut parfois être terriblement meurtrière. Le disciple qui a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur, est-ce que vous vous rappelez qui c'est? C'est Pierre. C'est Pierre, en fait, c'est un détail que nous révèle l'évangile de Jean. Bien que ce passage soit dans les quatre évangiles, il n'y en a qu'un seul qui a lâché le prénom. Et dans les évangiles, ce que l'on connaît de Pierre, c'est qu'il est connu notamment pour son impulsivité. Et on le voit bien dans ce passage que nous avons lu, les disciples demandent à Jésus, alors que les gens sont en train de l'arrêter, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Mais Pierre, il n'a pas le temps d'écouter la réponse. Il a déjà dégainé et versé le sang. Combien de fois est-ce qu'on a agi de la même manière? Nous défendre tout de suite, du tac au tac, sans chercher à savoir ce que Jésus voudrait vraiment que nous fassions. On appelle ça avoir de la répartie. Et la plupart du temps, bien, on trouve ça bien, parce que notre société valorise les personnes qui ont de la répartie, même si c'est au détriment des autres. Ah, désolé, je t'ai coupé l'oreille, mais il fallait que je me défende. Et puis tu l'as cherché, c'est pas ma faute. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. La langue, c'est une arme qui a un double aspect. Et Jacques nous en parle bien de ce double aspect. Il dit dans Jacques 3, verset 9, « Par elle, nous bénissons notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » De la même bouche sortent la bénédiction et aussi la malédiction. C'est un constat, et c'est réel. Mais Jacques conclut avec une recommandation. « Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. » Alors soyons vigilants. Dire des paroles blessantes, des paroles de jugement, des paroles qui tuent, même pour se défendre, c'est tellement vite fait. Puis il n'y a pas que le fond de ce qui est dit. Parce que parfois, sur le fond, ben oui, c'est une bonne chose de parler, de dire ce qu'il y a besoin de dire à des moments. Mais il y a aussi la forme. Et parfois, la forme que l'on utilise pour dire les choses fait tellement de dégâts. Prenons une image. Admettons, je vous invite à la maison. Je vous sers un bon petit plat. On a un temps de partage ensemble. On peut dire les choses. Maintenant, on prend la même scène et plutôt que de vous servir le bon petit plat, je le mets dans l'assiette, mais je vous jette l'assiette au visage. D'un coup, le temps de partage, ça va être compliqué. Ou pire encore, je vous amène la casserole chaude que je pose dans vos mains sans protection. Vous allez vous brûler. Et vous allez vous en rappeler encore quelques jours ensuite. Hein. Mais des fois, la forme que l'on donne, on a voulu partager un bon repas, mais la forme que l'on a donnée à ce repas a blessé l'autre. Ça a fait du mal à l'autre. C'était pas tant qu'il fallait pas partager. C'était faire attention à la manière de partager. Certains commentateurs disent que si Jésus a dit à ses disciples d'acheter une épée physique, une arme, c'était pour plus tard. C'était pour après la mort et après la résurrection de Jésus. Car ils vont devoir faire face à plus d'hostilité, il leur faudra se défendre. Et c'est vrai que les disciples vont rencontrer de l'hostilité. Le livre des Actes nous en parle à plusieurs reprises. Mais est-ce que Pierre a continué de se servir d'une épée, comme il l'a fait au jardin de Gethsémané? Et même, admettons, Pierre s'est assagi. Est-ce que les autres disciples se sont mis à dégainer leurs épées, à se battre? Est-ce que le livre des Actes nous rapporte des moments comme celui-ci? Non. Hein. Vous pouvez chercher, vous n'en trouverez pas. Pas une seule fois on ne voit les disciples répondre par la force ou avec une arme contre un agresseur. Même Pierre, en fait, a complètement changé après la croix. Son impulsivité a été transformée par l'action du Saint-Esprit. Quand on veut arrêter les disciples, ça se produit à plusieurs reprises, à chaque fois ils se laissent arrêter. Et même certains vont être exécutés. C'est le cas de Jacques, le frère de Jean, c'est le cas d'Étienne, qui même s'il n'était pas parmi les apôtres, il a malgré tout été lapidé. Est-ce qu'il nous est rapporté que ces personnes se sont défendues? Non. Et non seulement ces personnes ne se sont pas défendues, mais il n'y a pas eu de représailles de la part des disciples. Il n'y a pas eu de guérilla urbaine pour essayer de contrecarrer le pouvoir romain ou le pouvoir religieux en place. Non. Ils ont laissé de côté les épées de métal, ces armes qui répandent la mort. Mais alors, on voit tout ça, on se rend compte que ce ne sont pas les épées dont Jésus parle, mais si l'épée dont Jésus parle n'est ni une épée physique, ni notre langue, qui est capable du meilleur comme du pire, mais de quelle épée parle Jésus? La lettre aux Éphésiens nous parle d'une armure de Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 10. Voici ce qui est dit. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ainsi, vous l'avez compris, l'épée dont nous avons besoin, c'est cette épée de l'esprit. C'est une épée que Jésus lui-même a utilisée lorsqu'il a passé 40 jours dans le désert et que le diable est venu le tenter. À chaque fois, c'est par la parole de Dieu que Jésus a répondu. C'est par cette épée de l'esprit que Jésus s'est défendu. L'évangile de Jean écrit ceci dans Jean chapitre 1, verset 14. « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Jésus est la parole de Dieu devenu homme. Notre épée, c'est Jésus lui-même. Pendant 3 ans, les disciples ont suivi Jésus en tant qu'homme, en tant qu'être humain, comme eux. Ils ont été les observateurs de ce que Jésus faisait. Mais après la croix, ils vont commencer à devenir acteurs. Non pas par leur propre force, mais avec Jésus qui va être désormais en eux. Jésus va agir au travers d'eux et va proclamer la parole au travers de leur bouche. Tout comme les disciples, nous pouvons, nous aussi, quitter ce statut d'observateur parce que Jésus nous appelle à devenir acteurs avec l'aide de son esprit en nous. Amen. Cette épée spirituelle, elle ne répand pas la mort. Cette épée spirituelle, elle répand la vie. Elle est un révélateur et un outil de transformation. On peut lire dans Hébreux 4 au verset 12 cette parole. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Cette épée de l'esprit, elle agit d'abord en nous, pour nous transformer de l'intérieur. Elle met en lumière toutes nos zones obscures et nous conduit à la repentance. C'est-à-dire, la repentance, demander pardon pour nos péchés et marcher dans une vie nouvelle qui nous conduit vers l'éternité. Et cette épée, elle peut se mettre aussi en action dans la vie des autres. Lorsque nous avons choisi de ne pas compter sur les armes humaines, mais seulement sur la puissance de Dieu. Dans Marc chapitre 13, verset 9, Jésus dit ceci à ses disciples. « On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Choisir de servir Dieu, ça ne mène pas forcément à une vie tranquille et sans douleur. On peut être battu, on peut être blessé. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Mais le but de tout cela, c'est de servir de témoignage. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Et notre premier témoignage, c'est notre attitude. Nous n'avons pas encore dit un mot, mais notre attitude, nos réactions parle déjà à notre place. Et je vous rassure, notre mission n'est pas de rester forcément muet. Il y a un moment où Dieu nous donne l'occasion de parler, de mettre les sous-titres sur une attitude ou une réaction. Et à ce moment-là, ce n'est pas notre langue humaine qui vient s'exprimer, car ce sont des paroles de vie qui vont sortir de notre bouche, des paroles de vie que le Saint-Esprit va dire au travers de nous, que Jésus va prononcer au travers de nous. Et ce sont les versets qui suivent, en fait, dès le verset 11. « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Quand on lit le livre des Actes, c'est vrai que nous voyons à de nombreuses reprises les disciples avoir recours à cette épée de l'esprit et à devoir défendre non pas avec leur humanité, mais avec le Saint-Esprit en eux. Mais est-ce que vous savez que ça ne se passe pas que dans le livre des Actes ? Ça se passe aussi en 2025. Oui, Dieu crée les circonstances pour nous aussi, si nous voulons être disponibles pour cela. Dieu ne nous force pas. Mais si nous voulons entrer dans cette mission, dans ce plan, eh bien Dieu va créer les circonstances pour que nous aussi nous soyons amenés dans ces moments où nous pouvons témoigner par notre attitude et par les paroles que l'Esprit Saint mettra dans nos bouches. On doit aspirer à ce témoignage, aspirer à prêcher cette bonne nouvelle telle que Jésus nous appelle à le faire. Amen. Dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, Jean nous parle des visions qu'il a eues. Et dans ses visions, il voit notamment Jésus qui lui parle. Et Jean nous décrit à quoi ressemble cette image de Jésus qu'il voit à ce moment-là. Et on peut lire dans cette description, notamment dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, « De sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. » On retrouve cette image de la langue, de la parole de Dieu, de la parole de Jésus, cette épée spirituelle. Mais ça, c'est au début de l'Apocalypse. Mais quand on se dirige vers la fin, on peut trouver un passage extraordinaire dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Le sang qui a coulé à la croix pour nous sauver. Il s'appelle la parole de Dieu. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. Je précise, frapper, ce n'est pas pour nous tuer. Rappelons-nous que c'est une épée qui donne la vie. Donc, c'est le but de nous donner la vie, puisque d'ailleurs le texte continue en disant « C'est lui qui sera leur berger. » Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Revenons au passage que nous avons lu en introduction. Vous savez ce passage si surprenant dans Luc chapitre 22, verset 36 « Que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. » Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Alors c'est vrai, les commentateurs ont du mal à se mettre d'accord sur comment comprendre ce texte. Mais finalement, cela illustre bien qu'on a besoin de faire un choix personnel. Comment voulons-nous comprendre ce texte ? Quelle épée avons-nous aujourd'hui ? Mais surtout, quelle épée voulons-nous réellement avoir ? Il y a une épée qui répand la mort, et il y a une épée qui répand la vie. En conclusion, je vous partage ces quelques versets que l'on trouve au début de l'évangile de Jean. On est dans Jean chapitre 1, verset 10. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Nous avons tous un choix à faire. Et personne n'est obligé dans son choix. Mais pour ceux qui ont cru en lui, qui ont choisi d'accueillir Jésus, il y a une promesse. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. Et merci Seigneur éternel pour ta parole. Merci pour ces passages si surprenants qui nous obligent, Seigneur, à nous poser des questions, à essayer de rechercher quelle était ta volonté dans ces paroles. Merci Seigneur parce que c'est vrai, tu nous laisses toujours ce choix. Tu ne nous obliges pas, mais tu veux que ce choix nous puissions le faire par amour pour toi. Alors Seigneur, que nous puissions délaisser ces épées qui sèment la mort. On aurait tellement de bonnes raisons de les utiliser. Mais Seigneur, par amour pour toi, parce que nous voulons faire ta volonté, aide-nous à délaisser ces épées. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à rechercher plutôt ta volonté, à rechercher à avoir cette épée de l'esprit, cette épée qui répand la vie. Seigneur, c'est vrai, il y a des situations dramatiques, des moments tellement difficiles. Ça semble tellement impossible de ne pas se défendre. Mais je crois, Seigneur, que par l'esprit que tu mets en nous, tu nous rends capables de cela, pour passer d'une réaction naturelle à une réaction surnaturelle, pour que nos vies soient un témoignage à ta gloire, pour que nos vies soient une prédication de ta bonne nouvelle, pour que nous puissions, Seigneur, entrer dans l'éternité avec toi, et que nous n'y entrions pas seuls, mais accompagné de foules, de multitudes, parce que tu nous auras utilisés. Merci pour cette épée de l'esprit, Seigneur, que tu nous donnes à chacun. Aide-nous à la brandir la prochaine fois que nous aurons des attaques, la prochaine fois que nous aurons des difficultés, que nous puissions brandir cette épée de l'esprit, qui est une épée de ta victoire. Merci pour tout, Seigneur éternel. À toi, ça toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen.